France Culture.
Ben,
il n'y a pas d'autre appart, ah oui.
Ça donne cette impression, non?
Il y a déjà des livres.
Vous voulez que je visite depuis l'extérieur? Non, c'est pas poli. Allez, go. J'ai eu peur.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue.
Enchantée.
Je suis Laura, l'assistante de Valère.
Enchantée.
Bonjour.
C'est du sérieux?
Ouais.
J'ai rien fait.
Bah non, on sait.
Je passais par hasard.
France Culture.
Je pense à ma mère, il y a quelque chose de très curieux. Est-ce que tu es libre vendredi en 15? Il faut absolument que je te voie. Je vais au rendez-vous. Elle me regarde avec son regard bleu acier.
Le book club.
Elle me dit, écoute, voilà, ton père le pense. Il n'ose pas te le dire. Tes amis, ils sont de mon avis, mais il n'y en a pas un qui est vous.
Dans la bibliothèque de Valère Novarina.
Il faut que tu saches que personne ne comprend rien de ce que tu écris.
Marie Richeux.
Elle a ri ou pas?
Non, c'était pas drôle du tout.
C'était hyper sérieux.
Valère Novarina est un auteur, un peintre, un metteur en scène. Il commence à publier des textes au milieu des années 70, il a à peine 30 ans, et il a laissé les rives du lac Léman pour venir étudier la philosophie, la philologie et l'histoire du théâtre à la Sorbonne, à Paris. C'est à cette même époque, pendant les répétitions de la pièce L'Atelier volant, qu'il écrit La lettre aux acteurs pour Louis de Funès. Le texte est traduit dans plusieurs langues ensuite et souvent évoqué par les comédiennes et comédiens qui y trouvent matière à penser et à jouer, à manger peut-être, car le texte dit, je cite, que le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander ce que ça mange là-bas sur ce plateau. Mastication, succion, déglutition, des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les mangeuses, lèvres, dents, et d'autres morceaux doivent être vite gobés, déglutis, engloutis, aspirés, avalés. Fin de citation. La respiration, le souffle, la pneumatique du jeu et de l'écriture sont au cœur du travail de Valère Novarina, qui a mis en scène ses propres textes, souvent peint les décors de ses spectacles, le dessin et la peinture tenant une grande place dans sa pratique artistique. Lorsque nous le rejoignons chez lui, dans les anciens bureaux de son père architecte, les livres sont littéralement à l'entrée. On les voit à travers la porte vitrée et il y en a partout. Nous les dénicherons dans tous les coins. Mais pas d'ordre précis, sinon celui suggéré par Antonin Artaud au tout début de son texte mythique pour en finir avec le jugement de Dieu. Je cite, « Il faut que tout soit rangé à un poil près, dans un ordre fulminant. » Ça fera beaucoup rire Valère Novarina de nous lire ces mots d'Antonin Artaud, assis à une table où des objets très hétéroclites se partagent l'espace. D'ailleurs, il ne se contentera pas de lire de vrais passages de livres comme le veut notre exercice, il a aussi préparé pour nous des citations et quelques souvenirs de mots entendus dans des bars, dans la bouche de vieilles bergères suisses qui s'occupaient de lui, ou dans celle d'un vieil ami poète. Assez peu de hiérarchie, sinon celle de l'énergie. On écoute Valère Novarina déballer sa bibliothèque pour le boucle.
Attendez.
Par exemple, là, on entre chez vous, alors, il y a tout de suite des livres.
Oui, alors, et là, on est dans des choses que j'ai fait relier.
Okay.
À l'époque où c'était un peu moins cher que maintenant. Rémy de Gourmont, le latin mystique, Baudelaire, les Sœurs du Mal, deux, trois Bretons, etc. Alors c'est tout un climat. Alors il y avait... Pardon. À un certain moment, quand j'étais en quatrième, c'est quelque chose comme ça, ma mère a trouvé que je m'intéressais beaucoup à la littérature et m'a indiqué le nom d'un ami Moina, qui avait tous les livres surréalistes dans les éditions de tête, etc. Enfin bon, j'ai plongé dans une atmosphère surréaliste pendant une dizaine d'années.
Quel âge vous avez à ce moment-là?
Je suis entré en quatrième ou troisième, ou je ne sais pas.
14-15 ans, oui. Quoi.
Alors Louis Moinin, c'était un esthète, il a dessiné les carrosseries de sa voiture, etc. Bon. Et puis il avait un chalet à la montagne, avec une grande cheminée et une inscription en lettres gothiques. Chauffe ton cul et ferme ta gueule.
Ok.
Voilà, ça mettait de l'ambiance tout de suite.
Ouais, petite ambiance, ouais. En effet. Là, c'est des tout petits livres très beaux, c'est quoi?
Ben, j'aimais bien, comme ça, c'est complètement...
Mais c'est des choses que vous avez chinées ou qui étaient chez vous?
Non, mais j'ai aussi...
C'est trop beau, ça.
J'ai aussi... ma tante était très... C'était un milieu très littéraire.
Autour de vous, quoi.
Oui, enfin, oui. Mais, oui. Ben oui, ils ont tous, ils peignent, ils dessinent, ils font penser qu'on vient d'Italie.
Et donc vous avez tout de suite aimé lire, enfant. Il y a tout de suite eu des livres autour de vous.
Oui, oui, oui. Madame de Ségur, alors je ne sais pas si ça c'est encore beaucoup.
Ça peut.
Et puis ensuite, la découverte, dans le fond, l'autre amont, breton, etc. Contact presque direct, puisque ma tante, Madeleine Novarina, la sœur de mon père, était du groupe surréaliste, disons. Elle avait épousé, comment il s'appelle, Sarah d'Alexandrian. Et mon fils a hérité des archives de Sarah, et donc les dernières choses surréalistes.
Et là, on entre chez vous, donc c'est une première bibliothèque tout de suite après la porte. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce que vous avez un classement dans votre bibliothèque ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Tout au contraire, et je pense que c'est très bien de ne pas avoir de classement,
ouais.
De prendre des choses dans le désordre.
Mm-hmm.
C'est tout d'un coup, je tire un livre et je tombe sur je sais pas quoi.
Bah, la Réunuit, en fait. Où ?
Voilà, mon ami Jean-Noël Voirnet, un écrivain sur une femme mystique, etc. C'est le désordre total.
D'accord.
Mais c'est bien aussi de
ne bah
oui, pas de prendre ce qu'on cherche, mais ce qu'on ne cherchait pas et qu'on cherche quand même. Enfin, voilà, et, tout.
Et ça, c'est partout chez vous. Il n'y a que des bibliothèques en désordre.
Oui, 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 dans le fond. Jules Verne dans un coin, etc. Et puis, et de l'autre côté... Alors mon fils me dit que c'est un peu une bibliothèque de médecins.
Ah bon, pourquoi ?
Mais qui exhibe les Pléiades et qui les lisent jamais.
Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Ouais. Et c'est vrai ou pas ?
Ben c'est vrai que j'ai pas mal que j'ai pas lu.
Ah
puis
oui.
c'est sportif de lire,
ah
une.
Oui.
Mais
il y en a quand même quelques.
Mais ils sont là et si tout d'un coup je peux retrouver le texte que je cherche, c'est formidable.
Pour nos auditeurs, on peut dire Valère Novarina qu'il y a donc deux grandes bibliothèques devant nous où il n'y a que des Pléiades. Presque que des Pléiades.
Oui,
voilà.
C'est une question de format aussi.
Ouais. On regarde un petit peu ce que vous avez en Pléiade. C'est significatif ou c'est pas très intéressant ?
Ben non, ça c'est des...
Il y a un énorme Karcher qui m'empêche d'accéder.
Attendez.
Mais ça, c'est autre chose encore.
Oui, justement, c'est...
C'est beau ?
C'est ma tante.
Madeleine.
Non, ma tante Marie.
Ah, pardon.
Marie, Madeleine.
Je connais.
Paul Valéry, discours, c'est beaucoup de livres liés parce qu'il
est... Hyper beau.
Oui. En bas, il y a des livres aussi. Vous voulez qu'on aille voir aussi ?
Comme vous voulez. Il y a beaucoup de livres.
C'est vrai, oui, c'est terrible. Louis de Funès.
Pourquoi ? Ah, parce qu'il y a une photo. D'ailleurs, on est d'abord accueillis par Chaplin en dictateur.
Chaplin, dictateur, Shakespeare et de Funès. J'ai écrit des textes sur de Funès.
Je prends un petit côté de notre époque actuellement. La mauvaise humeur, tout ce qui enlève la dignité de l'homme m'amuse. Moi, pareil, je perds la dignité complètement. Tout ce qui enlève la dignité, justement, un petit truc, un petit tendon du pied, un tout petit, qui est comme un cheveu, on ne peut plus marcher, vous voyez. Et puis, ça ne me va pas d'aller dans une certaine petite douceur, mais il faut que je reprenne quand même. Je crois que c'est ça, mon personnage. Je suis encore en train de le chercher, mais enfin, c'est ça. Le bon, ça va être ça. Il y en a qui le font tellement mieux, comme le drame, c'est tellement mieux joué que par moi, vous savez. Moi, je préfère rester en comique, puis apprendre, et puis me perfectionner, parce que, croyez-moi, alors là, j'en ai beaucoup à faire, c'est ce qui m'intéresse, d'ailleurs. C'est ce qui me passionne. Donc, mais quand même, je me laisse aller trop dans une chose sérieuse. Ça ne doit pas rester sérieux, ce truc-là. Le comique est toujours sérieux, mais moi, je deviens trop sérieux aussi. Je perds mon enthousiasme, mais je m'égare un peu. Moi, je voudrais me retrouver comme lorsque je jouais les belles bacchantes, vous savez. Ben, des choses, et oui, je faisais un poulet, et puis le poulet qui faisait... Ça m'amuse. C'était ça le vrai truc. Mon vrai comique, c'est ça. Avec un peu d'absurde, beaucoup d'absurde.
Vous devez recevoir des propositions de scénario.
Donc, on a la chance d'avoir d'avoir des images. Alors, il y a beaucoup de choses de musées, etc. Voilà.
Des livres d'art, plutôt.
Oui.
Que vous consultez ou vous travaillez
oui,
avec
Ben oui, j'en pique un de temps en temps, je le regarde. En ce moment, c'est Jérôme Bosch. Voilà, c'est aussi le hasard. Mais dans l'ensemble, j'ai peut-être, je pense, passé plus de temps à écouter de la musique qu'à lire. C'est la musique est fondamentale. Je lis aussi, mais c'est... Et j'écoute les mêmes disques qu'il y a 50 ans.
Lesquels
L'art de la fugue, les derniers quatuors, enfin des choses dures. Mais c'est fondamental.
Vous voulez dire que c'est plus important, par exemple, dans votre formation d'auteur,
oui.
que ce que vous avez pu lire ou ce que vous oui, avez pu voir en peinture, par exemple.
C'est quelque chose que j'aimerais éclaircir, peut-être, justement.
Votre savoir. Rapport à la musique.
Voilà, voilà. Oui, il s'est passé que j'ai eu une paralysie du nerf rigumentiel, ou je ne sais pas quoi, une chose qui fait que vous n'avez plus de voix, etc.
À quel moment
Quand j'avais 20 et quelques années. J'ai perdu l'odorat quasiment complètement. Et du coup, d'autres souvenirs d'enfance apparaissent. C'est-à-dire, la transmission du goût et de l'odeur, c'est le nez, etc. Et si un peu ça, il y a encore le toucher. Alors, tout d'un coup, j'ai des sortes de révélations sur une prise électrique qui était chez mes parents. Enfin, je sais pas.
Mais des réminiscences.
Oui,
quoi.
C'est une autre.
Un autre rapport à la mémoire qui s'ouvre.
Oui, et un autre rapport à la musique et à l'abstraction. Parce que dans cette période-là, je suis devenu beaucoup plus sensible à l'orgue, par exemple, aux choses mentales.
Ça a duré combien de temps, cette paralysie?
Ça a duré une grosse année. Et je devais parler aux acteurs, c'était pas commode. Quelqu'un ferait un faux pas dans la rue, je peux pas crier. Enfin, Mais c'est venu d'un chaud et froid mental. C'était à partir du Mont Athos, et puis ensuite finir en Bosnie, etc. Un trajet en voiture dans des zones mouvementées. C'est tout le corps qui perçoit, c'est pas simplement le regard. En particulier, les yeux. Je trouve que les yeux chassent quelque chose, ils poursuivent quelque chose, ils font une recherche, ils bougent sans arrêt. Et qu'on ne possède rien par la vue, dans le fond. Que la vue est renouvelée, perpétuelle. C'est pour ça que les toiles sont repeintes 20 ans après, 5 ans après, etc.
Vos toiles à vous.
Oui, oui, oui. J'ai pris cette habitude de temps en temps, alors je les remets comme ça, je les mets dans l'autre sens. Il y en a avec lesquelles je ne fais rien. Mais elles doivent être déchiffrées chaque jour différemment.
Et donc, ce serait différent pour les textes que vous écrivez? Vous n'auriez pas le même rapport avec ça?
Avec les textes, j'aime pas trop en parler. Enfin, j'aime pas trop.
Ni les reprendre.
Sauf qu'à chaque fois, il y a une règle que j'applique de plus faire ce que j'ai fait cette fois-là. Par exemple, à un certain moment, j'étais devenu une fontaine de noms. Vous touchez comme ça, j'ai des noms qui sortaient par vague, je pouvais en avoir pendant une heure.
Des noms de refus ou des noms propres?
Des noms propres. Mais qui sortent comme ça, naturellement. Et je dis, le prochain livre que tu fais, tu dois mettre aucun nom de personnage. Aussi, je travaillais de plus en plus lentement, comme ça, volontairement. Et donc, la peinture m'a aidé à retrouver la vélocité, la surprise, la muscularité, le concret. Voilà, ça, j'ai changé pas mal de choses.
Et est-ce que la lecture occupe une place dans votre vie quotidienne, Valère
Novarina? Oui, alors très souvent, je lis 4 pages. Et puis je pense aussi à mes problèmes.
Je croyais que vous allez me dire, et puis je me mets au travail. Non, vous pensez à vos problèmes.
En ce moment, je fais très attention au premier mot de la journée.
Ok.
Le premier mot que je prononce, comme ça, et je vais peut-être faire un traitement spécial, faire travailler sur l'apparition d'un premier mot. Je me réveille avec un mot qui n'est jamais le même, et je vais peut-être travailler là-dessus. L'idée d'une règle et d'une liberté, etc. Par exemple, pour l'opérette imaginaire,
qui est un de vos textes, donc.
Je voulais que ça se construise en une journée, c'est-à-dire des fragments, des numéros sur les murs, etc. Et tout d'un coup, comme ces tentes actuelles qu'on jette et qui se développent tout de suite, l'acte est là. Et ça a eu lieu comme ça.
On poursuit un peu? Donc ici, plutôt des livres d'art. Voilà, d'accord, la peinture de l'image.
Une œuvre de mon frère, Patrice.
À Valère fraternellement, 2002.
Ça, c'est quoi?
Ça, je sais pas ce que c'est.
Ah, dialogue avec l'ange. C'est un grand classique hongrois. Haïti. Enfin bon, c'est le grand désordre, mais comme ça, je prends l'histoire d'Haïti, parce que je suis allé 3 fois en Haïti et travaillé avec des gens de là-bas.
Oui, voilà, il y a les pensées de Pascal qui sont juste à côté de l'art de la guerre de Sun Tzu, qui sont juste à côté de Pierre Chopinard, juste à côté de Dominique Fourcade. Juste à côté de l'histoire d'Haïti et de l'histoire de Byzance.
Ah bah...
mais aussi le langage des romans.
Armé pour la semaine.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas mal. People tell me, don't look back, the past far behind. But I keep on looking, like there's something to find. They tell me, remember, that I should forget. I've tried to succeed, but I still haven't yet. Now that there's nothing before me but a long, wide open road, emptiness is all around me without an end. For all I know, people tell me, don't worry, it's all for the best. If I could believe them, I'd settle for less.
France Culture.
Oh, si je pouvais les croire,
le Book Club.
Je l'aurais déjà fait.
Dans la bibliothèque de Valère Novarina. Marie Richeux.
Le dessin de Max Jacob.
Ah oui.
Qu'il a offert à l'abbé du Perret, qu'il a offert à mon père, qui me l'a donné. Voilà.
C'est quoi ce très vieux livre?
Ah, mais c'est intéressant. C'est le Molière de ma mère.
Ah ouais.
Qui était...
C'est l'école des femmes, non?
Oui,
c'est
oui.
Ça oui, il y a marqué et... rôle d'Agnès, mais parce qu'elle l'a joué?
Je pense, oui.
C'est émouvant, ce livre, dis donc.
Et c'est là qu'il y a couronné en Valère la flamme d'un amant généreux et sincère.
Et votre prénom viendrait de là?
Oui.
Hein
oui. Elle m'a dit, c'est dans une des loges. Dans une des loges, là-bas, elle m'a montré. Et après, quelqu'un voulait mettre une plaque.
Mais quoi, c'est dans une des loges,
oui,
lisant Molière.
Elle ne connaissait pas mon père, elle était toute jeune.
Mais elle s'est dit, je vais appeler mon fils Valère.
Si un jour j'ai un fils, je l'appellerai Valère.
C'est voilà. Beau.
Vous savez à peu près tout.
C'est beau, cette histoire. On grimpe un peu ou pas, alors?
Oui, on va aller dans mon atelier. Vous pouvez prendre son salon.
Il y a de la lumière, dis donc. Je peux?
Oui, mais non, c'est une partie qui est tombée, une partie de peinture qui est tombée.
Pas n'importe laquelle.
Oui. ça veut dire « Allons de l'avant en hongrois ». Qu'est-ce que je crois?
Il y a quoi comme livre ici?
C'est les livres plutôt en liaison avec la philosophie ou la linguistique.
Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a aussi des livres de théologie?
Énormément.
Ouais.
À peu près comme un pasteur de campagne.
Oui. Par ailleurs, il y a aussi pas mal d'images religieuses. Depuis tout à l'heure, je regarde...
Dans l'ascenseur.
Oui, mais
je suis claustrophobe. Je suis claustrophobe.
Ah, d'accord. Donc c'est pour vous protéger.
Oui.
Ah, on ne sait jamais.
Et ça marche.
Ah, c'est super. Vous avez bien raison de les garder. C'est parfait.
Je vais vous montrer encore une chose. Voilà. C'est un journal d'un ancêtre, paysan à Neuchâtel.
À vous?
Oui.
Alors
il décrit nos gens, ou amener des fagots à tel endroit, etc.
Ouais.
Et à peu près une fois par semaine, il dit, Seigneur, pardonne-moi mon inconduite d'hier, mais j'avais très soif, etc. Il y a ces confessions alcooliques qui se trouvent régulièrement entre tous les travaux.
Et c'est vous qui l'avez relié ?
Non, c'est mes... Oui.
C'est incroyable.
Un paysan, hein, qui
est dit. C'est incroyable, cette écriture. Oh, 1837, je peux regarder ? Samedi 15 avril 1837, beau temps. Continuation du labour au Rosset et à la Chambrière des ouvriers. Mon beau-père.
Il faut venir un couturier qui fait des costumes pour tout le monde pendant 5 ans, etc.
C'est hyper beau. Couvert, nuageux, froid. Ça commence par la météo. Oh, c'est hyper beau. Voilà. Oh. Magnifique. Il y a aussi un porc là, qu'on nourrit là-haut.
Un porc ?
Ouais. Et quelqu'un qui le nourrit et qui fume la pipe en même temps.
Alors figurez-vous, c'est mon porc à moi. Il s'appelait Nixon. C'était au moment de Watergate, etc.
Et c'est vous qui le nourrissez, là ?
Oui.
En fumant la pipe ?
En fumant la pipe, je lui préparais des pâtés avec des voilà. Mais c'est un animal curieux qui n'a pas peur de l'homme, qui vous regarde dans les yeux.
Très gentil, les porcs.
Qui vous regarde dans les yeux. Ouais. Et alors, malheureusement pour lui, il se prenait pour un mouton.
OK.
Alors, il y a les moutons qui couraient, etc. Et lui, il peinait derrière.
Ouais, hein, il était moins véloce, quoi, moins agile.
Il était tué et débité en jambon, mais j'en ai pas mangé.
Ah ben, si c'était votre porc. Est-ce qu'on lit les textes que vous avez choisis pour nous ?
Oui, je sais plus où ils sont.
Ils sont là. Dans lequel vous souhaitez évoquer ces textes, je me fais de la place, hein, d'accord ?
Oui. Là, il y a une première page et une dernière page de « Pour en finir le jugement de Dieu
».
C'est ça. On va le lire. Oui, ça fait tout ça, quand même. J'ai fait une sorte de petite thèse. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient connu, etc. Et recopié les cahiers de mise en scène de Roger Blin, etc. Donc, c'était...
À quel moment de votre parcours vous avez travaillé là-dessus, Valère Novarina ?
70, 72, je sais pas. Et à l'époque, à la Sorbonne, je parlais d'Artaud, les gens savaient pas qui c'était. Il y avait que 3 volumes chez Gallimard, etc. Et puis des batailles pour s'accaparer des dessins aussi. Mmh. Enfin, il y avait une ambiance de guerre.
Et comment vous aviez découvert l'œuvre d'Antonin Artaud ?
Je voulais faire une thèse sur Roger Vitrac. Et un ami m'a dit, tu devrais regarder Antonin Artaud. Et j'ai découvert, il y avait très peu de choses sur lui à l'époque, un ou deux livres de médecins, mais c'était très intense. Alors j'ai vécu une année en lisant que ça, et ensuite je n'ai plus jamais rouvert.
Et vous voulez commencer par lui ?
Oui.
Pour en finir avec le jugement de Dieu.
Alors voilà deux répliques de ce livre.
Donc pour en finir avec le jugement de Dieu.
C'était une création radiophonique.
Oui, voilà, c'est ça,
qui censurée. Durait, et Roger Blin, qui participait à tout ça, m'a raconté des choses intéressantes. Et ils enregistraient Paul Thévenin, lui, etc. Et puis derrière les vitres, il y avait les techniciens de la radio qui, pendant toute la durée de la prise, ont éclaté de rire. Ils ne pouvaient plus s'arrêter de ce qu'ils pensaient comme l'absurdité de ce texte.
C'est un texte de 1947 et vous avez choisi le tout début et la fin, c'est ça ?
Oui, les premiers mots, mais les premiers mots et les derniers.
Okay.
Premier mot, c'est très important ici. Il faut que tout soit rangé à un poil près dans un ordre fulminant. Et la fin, c'est « Que voulez-vous dire, monsieur Artaud ? Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce singe et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus en l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment ça ? De quel côté qu'on vous prenne, vous êtes fou, mais fou à lier. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie pour lui faire refaire son anatomie, l'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu ! et avec Dieu ses organes. Car, liez-moi si vous le voulez, mais il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes, et cet envers sera son véritable endroit. Voilà, c'est la première et la dernière page.
En face du peuple, qui fait manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes, les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né. Et Tarahumara, mangeons le peyote à même le sol, pendant qu'il naît.
Pourquoi vous avez choisi ça?
Oh, c'est bien, c'est le contraste entre les deux. Puis la première phrase qui est assez comique, on n'attend pas ça d'Artaud quand même. Il faut qu'il tout soit rangé un poil près dans un heure fulminant. On attend ça de mon grand-père qui fait des observations.
Quand vous dites que vous l'avez beaucoup étudié, puis ensuite pas du tout rouvert, c'est vrai?
Oui, oui, je l'ai ouvert ensuite pour un colloque Artaud organisé par Guénoun. Alors ce qui était drôle, c'est justement, c'est ça, il faut que tout soit rangé un poil près. Dans ce séminaire, il y avait le neveu d'Artaud. Et alors, il disait des choses qui surprenaient beaucoup. Il disait, oh, mais dans le fond, Anton Artaud, il était très famille. Il venait tous les dimanches manger chez sa mère, etc. Et j'avais déclenché avec cette histoire d'Artaud quelque chose. C'est-à-dire, j'ai écrit à Pierre de Bois-d'Effre, qui dirigeait l'ORTF, ou je sais pas quoi, pour dire, je travaille sur Artaud, et pour en finir, etc. Et où est-ce que je peux me procurer
la bande?
Ouais. Et il m'a écrit, vous pouvez pas vous la procurer, elle était détruite sur ordre de la famille. Sauf que c'était faux. Mais il y avait une guerre entre les Marie-Ange Malocéna, 50 rue d'Auteuil, sa sœur. Et quand j'ai eu près ça, tout de suite, j'ai écrit à Marie-Ange Malocéna pour m'offusquer de ce traitement.
Quand on vous a demandé de choisir des textes, vous avez tout de suite pensé à Artaud?
Non, pas tout de suite. J'ai pensé d'abord à Rousseau. Mais c'est un peu longuet, le truc de Rousseau, il faudrait le lire que ça. Et puis un texte surprenant de Madame Guyon.
Vous voulez qu'on lise Madame Guyon?
Ben oui, si vous voulez.
Allez. Donc c'est un texte de 1720.
J'étais très ami avec Jean-Noël Warnet. Et je lui dis, Jean-Noël, j'ai lu que Rousseau disait de Fénelon, si j'avais connu cet homme, j'aurais voulu être son valet de chambre.
Okay.
C'est pas rien comme déclaration d'intérêt.
Ouais.
Aurais-tu des textes de Fénelon à me prêter pour cet été? Il m'a donné sa correspondance avec Madame Guyon. Et j'ai découvert, très surpris tout d'un coup, elle était sur la même commune que moi, à Drayan. Et personne à ton nom m'avait jamais parlé de Madame Guyon. Elle était comme complètement. Alors qu'elle a joué un rôle très important, plutôt du côté des protestants. Elle avait un courage extraordinaire parce qu'elle affrontait Bossuet, qui l'a mis en prison pendant 5 ou 6 ans. Parce qu'il disait, non, la Trinité, c'est pas ce que vous avez dit, c'est autre chose, c'est comme ça, avec une espèce d'autorité qu'elle avait spontanément. Oui, et finalement, beaucoup de choses sont passées chez les protestants allemands et avec les romantiques, dans le fond aussi, parce que je trouve que c'est aussi elle annonçait quelque chose.
Donc, vous êtes passé de la correspondance de Fénelon avec Guyon.
Oui.
Au texte de Guyon elle-même, vie de Madame Guyon par elle-même.
Et ce livre est très beau. Alors, oui, c'est ça, il est romantique parce que dès qu'il y a un cours d'eau, il y a une noyade. Je ne sais pas, quelque chose qui tombe, quelque chose qui s'agresse. Mais ce sont des très, très, très beaux textes. Eh bien, vous verrez. Parce
allez,
que,
ben, on vous écoute.
Dans cette retraite, il me vint un si fort mouvement d'écrire que je ne pouvais y résister. La violence que je me faisais pour ne le point faire me faisait malade et m'ôtait la parole. Je fus fort surprise de me trouver de cette sorte, car cela ne m'était jamais arrivé. Ce n'est pas que j'eusse rien de particulier à écrire, Je n'avais chose au monde, pas même une idée de quoi que ce soit. C'était un simple instinct avec une plénitude que je ne pouvais supporter. J'étais comme ces mères, trop pleines de lait, qui souffrent beaucoup. Je déclarais au père Lacombe, après beaucoup de résistance, de la disposition où je me trouvais. Il me répondit qu'il avait eu de son côté un fort mouvement de me commander d'écrire. Mais à cause que j'étais si languissante, il n'avait osé me l'ordonner. Je lui dis que ma langueur ne venait que de ma résistance et que je croyais qu'aussitôt que j'écrirais, cela passerait. Il me demanda « Mais que voulez-vous écrire ?»« Je n'en sais rien, » lui répliquai-je. « Je ne veux rien, je n'ai nulle idée et je croirais même faire une grande infidélité de m'en donner une, ni de penser au moment à ce que je pourrais écrire. » Il m'ordonna de le faire. En prenant la plume, je ne savais pas le premier mot de ce que je voulais écrire. Je me mis à écrire sans savoir comment. Et je trouvais tout cela venant avec une impétuosité étrange. Ce qui me surprenait le plus était que cela coulait comme du fond et ne passait point par ma tête. Je n'étais pas encore accoutumé à cette manière d'écrire. Cependant, j'écrivis un traité entier de toute la voix intérieure sous la comparaison des rivières et des fleuves. Quoiqu'il soit assez long et que la comparaison y soit soutenue jusqu'au bout, je n'ai jamais formé une pensée, je n'ai jamais pris garde où j'en étais resté, et malgré des interruptions continuelles, je n'ai jamais rien relu que sur la fin, où je relus une ligne ou deux à cause d'un mot coupé que j'avais laissé. Encore crus-je avoir fait une infidélité. Je ne savais, avant d'écrire, ce que j'allais écrire. Était-il écrit? Je n'y pensais plus. J'aurais fait une infidélité de retenir quelques pensées pour la mettre, et notre Seigneur me fit la grâce que cela n'arrivât jamais. À mesure que j'écrivais, je me sentais soulagé et je me portais mieux. Vous ne vous contentâtes pas de me faire parler, mon Dieu, vous me donnâtes de plus le mouvement de lire l'Écriture sainte. Il y avait du temps que je ne lisais plus, car je ne trouvais en moi aucun vide à remplir, au contraire, plutôt trop de plénitude. Sitôt que je commençais à lire l'Écriture sainte, il me fut donné d'écrire le passage que je lisais, et aussitôt, tout de suite, il m'en était donné l'explication. En écrivant le passage, je n'avais pas la moindre idée sur l'explication, et sitôt qu'il était écrit, il m'était donné de l'expliquer, écrivant avec une vitesse inconcevable. Avant que d'écrire, je ne savais pas ce que j'allais écrire. En écrivant, je voyais que j'écrivais des choses que je n'avais jamais sues, et dans le temps de manifestation, la lumière m'était donnée que j'avais en moi des trésors de science et de connaissances que je ne savais pas même avoir. Quand même,
ah ouais.
Elle est très, très inconnue et méprisée un peu.
Mais c'est assez beau que vous ayez choisi ce texte-là, Valère Novarina, aussi sur la méconnaissance de ce qu'on écrit, sur oui, le non-désir de savoir.
Je travaillais pas vraiment comme ça, mais quand même un peu. C'est-à-dire que ce soit une activité manuelle aussi. C'est la main et du papier, voilà. Ça s'avère être passif. Avec André Marcon, j'assistais à toutes les représentations d'Adramelec, etc. Toutes les représentations, et c'était chaque jour de mieux en mieux. Et un jour, il fait une représentation extraordinaire, 4 marches plus. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu avais mangé? Est-ce que tu avais écouté un disque? Pourquoi c'était si fort? Et André me dit, oh, c'était bien. Bon, écoute, je me suis, pendant toute la représentation, dit que j'avais oublié de laisser des places à un copain de Saint-Étienne. J'ai ri, et puis j'ai pensé à un livre de Erigel, un Allemand, sur le tir à l'arc zen. Quelque chose tire. C'est pas vous qui avez fait la chose, l'acteur est passif. D'ailleurs, tout est passif.
C'était le jour du petit séparateur, la veille des fêtes des 13 000 tubes. Je demandais le matin à mon corps, retrouvé par hasard. Fallait-il être en mort, mon corps, le pourrions-nous? À peine levé, je marche et je porte à Madame Bargilas trois questions en rampant qui faillirent n'en faire qu'une. Pourquoi le corps est-il porté? Pourquoi l'espace est-il en quatre? Pourquoi le mort dit-on qu'il sort? Elle répondit, pourquoi vos chairs sont-elles parlées? Je répondis, vous, qui êtes sur cette terre depuis plus longtemps, avez-vous cru dans la chair de mes esprits? Où tombe-t-il donc ce subrepticement? Pourquoi de chair esprit soit-il? Pourquoi les bêtes dit-on qu'elles passent? Ont-ils une suite comme nous qui sommes? Pourquoi la terre est-il par terre? Pourquoi les gens vont-ils par deux? Vont-ils en haut? Sont-ils des végétaux? Le lion grisole, le bœuf blatère, l'alouette rugit, la caille locute. Pourquoi les hommes sont-ils en vrai? D'où viennent nos sons? Pourquoi entrer avant de partir? Le lendemain, moi qui étais déjà plus de ce temps-là, j'arrive enfin à dire quel jour nous sommes. Quel jour on est, en vrai? Quel jour? Répondurent-je. Je ne sais même plus l'année ni l'an. Je lançais donc subrepticement quelques dates par poignée au hasard, dont l'une par malchance fut la bonne, et ce jour qui étions. Nous étions, Jean, lundi et mercredi, de je ne sais plus ni moi ni an, devant le juge, présent, de rechef, et tous les gens portés présents des tribunaux excrémentaux, nous reportâmes et déposâmes, sans conviction, les alibis des preuves par 7 de nos passages hors d'une vie postérieure. 1. Un bout de corde curule. 2. La hanse d'une semi-toupie vue. 3. Une machine à calculer manuelle et une chemise bistre à 8 poches, certains boutons, et le polaroid d'une viande, et une carte à jouer as de carreau, et une carte Michelin 88, et une pochette contenant plus d'une demi-douzaine d'objets sans nom. À la vue de la suite de quoi, tout le jury jura compter 18 seulement pour nous acquitter d'être. Mais le huissier, ou greffier, 19. Lorsqu'il survint pour me dire à l'oreille, « Lites maintenant la liste de vos derniers mots par écrit. Dieu est puni. Dieu est lumière qui vit sans toi ni moi. »
Mais est-ce que vous diriez que c'est aussi comme ça que vous voulez ou que vous avez écrit? En passivité?
Moi, j'ai pas loin de quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai été frappé que 300 ans après, Madame Guillon a cette même table.
Mais comme en découvrant, parce qu'elle elle dit... Ce faisant, pendant la manifestation, elle dit, oui. La manifestation, alors je découvre des choses que je ne savais pas que je savais.
Oui, on en sait, la plus, connaissance. On en sait plus qu'on croit.
Et ça vous est arrivé, par exemple, ça, de commencer à écrire et de vous dire, ah tiens, il y avait ça en moi. Parce qu'elle dit aussi le vide et le plein, il y a beaucoup cette chose-là.
Oui, ben, le vide et le plein, ça me plaît parce que c'est la respiration. Mmh. Et que, enfin moi, dans les quelques idées que j'ai, c'est que la pensée vient achever la respiration. C'est le travail de la respiration jusqu'au bout, c'est la pensée. Donc la pensée, elle aussi brûle des mots, en faire tomber un certain nombre, savoir qu'elle ne touche pas, qu'elle ne saisit pas, qu'elle ne tient pas prisonnière, etc. Tout un sentiment très... Voilà, enfin bon... Ben alors Bergson en parle un peu beaucoup, je crois dire, j'ai pas lu Bergson, et puis plutôt du côté allemand. Et dans, chez elle, elle faisait dire des messes avec des protestants qui étaient cachés dans les rideaux, parce qu'il fallait pas... C'était pas tellement de temps après la Saint-Barthélemy.
Elle vous a drôlement intéressée, cette Madame Guillon. Non?
Oui. Oui, c'était à une époque où j'ai eu un accident de ski, curieusement, qui m'a fendu le tendon d'Achille, comme ça. Bon, et puis j'ai mis un plâtre. Le plâtre, un jour, ils l'ont enlevé. Et j'ai eu une nouvelle fracture dans l'autre sens. Et ça formait une croix.
Oh.
Ça fait que j'ai lu Madame Guillon pendant une année, autant qu'Arthur.
Mais c'est... vous faites quand même le lien avec deux accidents de corps. Votre paralysie, votre fracture.
Voilà.
On lit autre chose? Il y avait le poème de Mallarmé, toute l'âme résumée.
Ah oui. Toute l'âme résumée, quand lente nous l'expirons dans plusieurs ronds de fumée abolis en d'autres ronds, atteste quelques cigares, brûlant savamment pour peu que la cendre se sépare de son clair baiser de feu. Ainsi le cœur des romances à la lèvre vole-t-il, exclusant, si tu commences, le réel parce que vil. Le sens trop précis rature ta vague littérature.
Vous êtes un lecteur de Mallarmé, Valère Novarina?
Moi, j'étais fasciné par Mallarmé, surtout parce qu'il était né 100 ans avant moi.
Ah oui.
Oui,
alors Guyon, du même coin que vous, et puis Mallarmé 100 ans avant vous, quoi.
Non, ça crée des liens.
Ben oui. Quand est-ce que vous découvrez Mallarmé? Quand est-ce que vous commencez à le lire?
À la bibliothèque Sainte-Geneviève, où je demande des ouvrages d'un certain Greer Cohn, il s'appelle, et c'était un coup de dé, mais avec des traits noirs qui barraient le texte, et ça me mettait dans une espèce d'état, très curieux, quoi. C'était très physique.
Ça, c'est d'autres choses que je ne sais pas ce que c'est, les autres choses. Ce sont d'autres citations, peut-être, que vous souhaitiez lire.
Oui, alors, parce que Rousseau dit que tel chapitre de La Nouvelle Héloïse est un chef-d'œuvre de diction. Et ça m'intéresse beaucoup, ce moment où il n'y avait pas encore l'opposition entre l'écrit, le non-écrit, etc. Et, oui, il nous manque... Ah oui, c'est des choses, c'est Alfred Jarry. André Marcon...
Donc, comédien avec qui vous avez beaucoup travaillé, Valère Novarina.
Il parlait peu, il est très peu bavard, mais de temps en temps, il disait « minéral ». Ça va, André ? Minéral.
Comment ça va, minéral ?
Oui, mais je sais pas. Oui.
Bah si, je vois.
Minéral.
Je vois, ouais.
Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, jusqu'au moment où je suis tombé sur une phrase de Jarry. Voici. « À travers tous ces accidents, subsiste l'expression substantielle, et dans maintes scènes, le plus beau... l'impassibilité du masque un épandant des paroles hilarantes ou graves. Ceci n'est comparable qu'à la minéralité du squelette dissimulé sous les chairs animales dont on a de tout temps reconnu la valeur tragicomique. » C'est dans un texte qui s'appelle « De l'inutilité du théâtre au théâtre ». Ensuite, une catine extraordinaire de Tertullien. « Le Fils de Dieu a été crucifié. C'est une honte dont je suis fier. Et que le Fils de Dieu soit mort, il faut le croire car c'est inepte. Et qu'enseveli il soit ressuscité, c'est certain parce que c'est impossible. » Le Moyen-Âge, quand même, il y a une énergie, il y a une force, il y a un culot. Enfin, je ne sais pas, c'est comment dire.
Ça me fait rire tout ce que vous avez choisi. C'est drôle. Mais ça vient d'où? Vous prenez des notes, c'est quoi?
Oui, j'ai un carnet de citations.
Mais où? Il est où?
Il est par là.
Il est par là, d'accord. Ouais. Et vous le recopiez avec un stylo?
De temps en temps, oui. D'accord. Alors aussi, les hommes ne parlent que rarement à eux-mêmes et jamais aux autres des choses qui n'ont point reçu de nom.
C'est Joseph de Maistre.
C'est pas mal, hein?
Les hommes ne parlent que rarement à eux-mêmes
Rarement à eux-mêmes et jamais aux autres des choses qui n'ont point reçu de nom.
Donc bon, bref, autant ne pas chercher à se parler, quoi.
Ah, je sais pas, alors. Et puis Saint-Augustin, extraordinaire, le langage s'entend, mais la pensée se voit. Et puis sinon, la fin de... Comme ça, on a presque tout lu. Ah oui.
Ça, c'est vous, ça.
Oui, voilà. Alors, sens. Le sens, l'essence. Profondeur ambivalente de ce mot. C'est dans les mots réversibles que notre langue, comme toutes les langues, en sait le plus. Passage, renouveau, mutation... Renaissance, métamorphose, naissent d'un faux pas, d'une chute, passent par la perte de l'équilibre. C'est traversé par le déséquilibre et comme passant par un pont vide, comme prise en faute, touchant sa limite, que la pensée reprend son élan. Et une phrase extraordinaire de François de Sales, « J'enseigne en chair des vérités que j'ignore complètement ». Et j'ai donné cette phrase à Pinon, Dominique Pinon, sortait de scène, allait rejoindre sa loge. Je lui donne la phrase et il me dit, c'est tout à fait ça.
Garçon, qu'en pensez-vous?
A plus B, facteur de A, moins B, égale A carré, moins B carré.
Garçon, qu'en pensez-vous?
A plus B au cube, égale A au cube, plus 3A carré B, plus 3AB carré, plus B au cube.
Qu'en pensez-vous?
A plus B puissance 4 égale A puissance 4 plus 4A au cube B plus 6A carré B carré plus 4AB au cube plus B puissance 4.
Garçon, qu'en pensez-vous?
A plus B puissance 5 égale A puissance 5 plus 5A puissance 4B plus 10A au cube B carré plus 10A carré B au cube plus 5AB puissance 4 plus B puissance 5.
Garçon, qu'en pensez-vous?
Soit grand X et grand Y, deux vecteurs aléatoires, tels que le vecteur grand Z qui est égal à grand X grand Y, admettent une densité de probabilité et soit petit g, fonction de grand R, puissance petit l plus petit n dans grand R, où Petit L et petit M sont les dimensions grand X et grand Y, respectivement une fonction mesurable, et tel que petit g de grand X, grand Y soit de carré intégral. Alors, la variable aléatoire petit h de grand Y égale à l'espérance de petit g de grand X, grand Y, sachant grand Y est telle que l'espérance du carré du module de petit h de grand Y soit strictement plus petit que l'infini, et elle minimise l'écart quadratique défini par l'espérance du carré du module de grand V de grand Y moins petit g de grand Y parmi toutes les variables aléatoires de la forme grand V de grand Y, où grand V est une fonction mesurable de grand G puissance petit h dans grand Y, et telle que l'espérance du module de grand V de petit Y au carré soit strictement plus petit que l'infini.
C'est-à-dire ?
Ah, puissance 8 plus 8 à puissance 8, B, plus 8 à puissance 8, B, puissance 8, plus 8 à B, puissance 8, plus 1 puissance 8, B, puissance 8, plus B, puissance 8. 1 plus B, puissance 8 égale. 1 puissance 8, plus 8 à puissance 8, plus 8 à puissance 8, plus 4 à puissance 8, plus 8 à puissance 8, plus 4 à puissance 8, plus 1 puissance 8. Voilà la formule du temps.
Tout à l'heure, quand on est rentré dans votre atelier, Valère Novarina, il y avait donc ce petit papier-là sur lequel étaient écrits plusieurs mots en hongrois. Et ça me fait penser aussi à ce que vous écrivez du hongrois comme cette langue inconnue et puis de votre rapport au patois, votre découverte du patois lorsque vous étiez enfant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a comme un rapport à la langue qui est pas que inversée d'ailleurs, comment on pourrait
Naissante. Il y a des mots extraordinaires. Par exemple, pour dire le printemps, ils disent pas primavera, le printemps, ils disent saillie feu. Saillir, sortir dehors, feu, la poussée de la sève. Les endroits sont toujours localisés. Venir en ça, aller en là. Et il y a même un endroit qui s'appelle en là par de l'élé. C'est plus loin que tous les endroits nommés. Et ce, aussi, ce qui est beau à la campagne, c'est que chaque endroit porte un nom parce que c'est l'endroit d'un travail. Et nous, par exemple, à un moment, Taziev avait fait mettre le sismographe près de mon chalet. En plus, suite, il est parti. Alors, l'endroit s'appelle les Taziev. J'ai trouvé des champignons chez les Taziev. On sait tout de suite où c'est. Et puis aussi, j'étais dans un bistrot avec un copain à la montagne, etc. Et à côté, il y avait quelqu'un qui ne parlait pas du tout et qui avait quelqu'un en face de lui. C'était comme ça. Il va sortir quelque chose. Je tends les oreilles. Et tout d'un coup, il dit, il y a trop de tout. Je l'ai mis dans une pièce, etc. Oui, c'est extraordinaire. Puis alors, le même, cette même personne, dans un café à Tonon, dit à sa femme qui était en face de lui, j'ai horreur des gens, parce qu'ils sont plus intelligents que moi. Et cette sagesse, c'est des choses qui sont comme des tatouages, avec une phrase et un truc comme ça, c'est quand même, il faut le dire, quoi.
Ça veut dire que... On est passé là de textes écrits, donc Rousseau, Artaud, etc., à quelque chose que vous entendez dans un café. Est-ce que pour vous, sans forcément faire de hiérarchie, mais on va dire que ça fait partie de la même lecture,
ça. C'est l'endroit de la langue.
Ouais.
Et lorsque j'ai enterré un ami à moi qui s'appelait François Ducret, je me suis dit non seulement j'enterre François Ducret, mais j'enterre les L mouillés, la famille. Et la famille, c'est, à l'italienne, c'est un L mouillé, le son. La bouteille, la famille.
Mais je comprends pas le rapport avec votre copain François.
Ben lui, il disait la bouteille, la famille.
Ah.
Et c'était le dernier chez qui je pouvais entendre cette syllabe.
Un son, une façon de parler, quoi.
Oui. Et puis alors, une chose un peu comique. Donc j'avais 7-8 ans, ma mère me recommande aux deux bergères, les bergères de 90 ans qui restaient là. Donc vous allez bien vous en occuper. Oui, bon. Alors, et elle m'invite et elle me serve des pommes de terre en robe des champs. Vous voyez ce que c'est? Et je prends mon opinel, je prends mes pommes de terre, je pluche mes pommes de terre et je mets les épluchures dans l'assiette. Et Madame Jolie me dit, mettez seulement les épluchures sur la table, Monsieur Novarine. On n'est pas des grandioses. C'est extraordinaire. C'est magnifique.
Ouais.
C'est quelqu'un qui a le français comme ça. Et le dernier, c'est mon copain Stélin. Toujours le même. Je le vois, j'ai la cuvette des WC était à moitié cassée, etc. Je dis, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 1936, on va peut-être pas trouver. Il me dit, oh, t'en fais pas. Il doit avoir ça dans ses archives. C'est l'utilisant comme un académicien ou quelqu'un avec une connaissance profonde du français pour dire ça. Parce que les gens étaient... Je suis contre cette idée d'opposer le patois. Ils recevaient des coups de règle, etc.
Parce qu'ils parlaient partout et que c'était interdit.
Oui, oui, mais enfin, faut pas en faire une montagne. Parce qu'en même temps, ils étaient très forts en français grâce à La Fontaine. Ils étaient élevés à La Fontaine. Mon copain Stanley en savait 5 ou 6 de La Fontaine. Et c'était quelque chose de fondamental dans notre culture. C'est très beau, La Fontaine.
Mais vous avez beaucoup appris, vous aussi, des textes de La Fontaine ?
Oui, un petit peu. On a joué Le Chien et le Loup. C'est magnifique. Puis, ça correspond avec tout le vocabulaire du Moyen-Âge. C'est très beau. C'est merveilleux, La Fontaine.
Mais quand, par exemple, là, il vous revient en mémoire, c'est sorti avec la bergère, Madame Jolie, ou oui. avec le type dans un café avec sa oui. femme, etc. Ça vous revient parce que c'est toujours là, parce que c'est des choses qui sont... Ce que vous avez dit comme un tatouage, mais ce serait ça ? Ce serait l'équivalent de phrases qui vous seraient tatouées ?
Ben oui, c'était... Non, mais l'idée aussi, oui, de l'attention au langage. Et le langage, il est ni en toi, ni en moi, il est entre nous deux. Et c'est une sculpture entre nous deux qu'on perfectionne ou qu'on abîme, ou je sais pas quoi. Mais c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent qui garde valeur fixe, etc., qui agit mécaniquement. C'est plutôt du côté de fleurs ou d'une chose naturelle.
Mais donc, par exemple, dans les textes que vous aviez choisis pour nous, donc Artaud, Guyon, Rousseau... Pour vous, c'est à la même valeur de langage ?
Oui, c'est des endroits linguistiques très importants.
Ouais.
Et ces paysans, ils avaient chacun un style. Et chacun avait son propre juron. Ce n'était pas le juron d'un autre. Il y a un voisin, son juron, c'était fléau. Ah, oh, fléau.
Fléau, oh, comme fléau.
Ah, fléau, oh, fléau. Ouais. Fléau, etc. Ouais. Parce qu'on se sort de tout par le langage. Le langage aussi permet une perdition, enfin, il peut être assassin, etc. Mais on peut, avant de mourir, faire comme Jarry qui a dit « Passez-moi un cure-dent ». Je m'intéressais beaucoup aux dernières paroles. Mais là, ça devient mécanique à vitesse grand V. Là, hein. Les gens ne voient pas la langue comme quelque chose de charnel, fragile, qui n'immobilise pas, mais qui met en mouvement, etc. Il y a un truc de... transformé en mécanique vite fait, là. Moi, je trouve qu'on le ressent même comme ça dans la rue. Je suis aussi dans un endroit où il y avait 3-4 langues. Parce que le Chablais, le Chamonix, tout ça, il y a 2 heures de vélo et on parlait patois. De l'autre côté, il parlait italien. Il y avait l'allemand pas loin, etc. Il y a aussi une variété extraordinaire des toponymes, des noms de villages. C'est incroyable.
Qui vous y a rendu très sensible.
Outan, Ouattapan, un endroit qui s'appelle Ouattapan. C'est incroyable.
On a lu tout ce qu'on devait lire ?
Ouais,
hein ?
Oui,
allez.
Oui.
Ben, merci beaucoup de nous avoir ouvert votre bibliothèque, Valère Novarina.
Ah, j'ai une chose de la bibliothèque que je pourrais montrer.
Ah, ok. Ce sera la dernière.
Ah, si, voilà. Attends, je vous donne ça.
Bah oui, je vous donne.
Oui, on va le poser sur la table.
Poser
sur la table.
Ok. Ici.
Ici, oui.
Là.
Alors c'est l'encyclopédie de mon arrière-grand-père. Qui était paysan suisse-allemande, etc. Ça se termine par les trucs les plus savants, les théâtres, les hippodromes.
Mais c'est une encyclopédie que imagée.
Oui, c'est ça. C'est, oui.
C'est magnifique.
Des populations. Ah oui, mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est par où elle a commencé. Non, parce que ce qui était. Je sais pas, la feuille est peut-être partie ailleurs. Ce qui était extraordinaire, c'était une figure, c'était le point.
Le point ?
Le point.
Ouais.
Le point, la ligne, le cercle.
Ouais.
Mais les Allemands commencent par le point.
Oh.
C'est avant tout. Voilà, là, vous approchez du tenez, vous le tenez comme ça.
Ouais. Ah ben voilà.
La ligne droite, la courbe. C'est extraordinaire.
C'est
hein. Tout est dans l'ordre. Tout est dans l'ordre.
Et on en revient à Artaud.
Ouais. tout.
Merci beaucoup.
Voilà.
Je les remets peut-être, non ? Vu qu'ils sont lourds. Allez. Hop. Alors attendez, je remets juste ça. Ok. Ah.
Allez, on a tout vu, on a tout vu.
Ouais.
Oui, 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 je vais vous suivre.
On vous suit peut-être.
Oui, oui, d'accord.
Merci pour votre accueil, Valère Navarino.
Oui, voilà, j'étais content de vous retrouver.
Ben oui.
Ouais.
Moi aussi. À bientôt.
Au revoir. Voilà. C'est, en principe, c'est ouvert. Hein.
Ok, ça marche.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. À la prise de son pour cet épisode, c'était Hélène Langlois. Au mixage, Marie-Claire Oumabadi. Et à la réalisation Vivien Demeyer. Si vous voulez retrouver les textes et les citations évoquées par Valère Novarina, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr et c'est aussi sur cette page que vous pouvez retrouver tous les autres portraits de bibliothèque. Un grand merci à toute l'équipe.
Les gens prennent, les temps sont sur, ça les prend comme ça donne. Besoin